Le journal par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le MEDEF consterné par la crise avant le vote de confiance à l'Assemblée. Patrick Martin, le président de l'organisation patronale, reproche aux dirigeants politiques leur incapacité à dépasser leur rivalité. Il refuse aussi tout retour à l'ISF, l'impôt sur la fortune. La crise politique qui pourrait déboucher sur une crise sociale avec le mouvement Bloquons tout le 10 septembre. Mobilisation soutenue par le syndicat Solidaire. Alors que la CGT appelle à construire la grève. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, veut durcir les conditions d'obtention du bac. À quelques jours de la rentrée, elle annonce aussi une formation à l'intelligence artificielle pour les élèves du secondaire. Dans l'actualité internationale, les chars israéliens se rapprochent de la ville de Gaza, dernier bastion du Hamas selon l'État hébreu qui veut évacuer environ 1 million d'habitants. Nous ferons le point avec Thibault Lefèvre. Le MEDEF a choisi cette année Roland-Garros, le temple parisien du tennis, pour sa traditionnelle université d'été. Jeu décisif, c'est le titre de la 7e rencontre des entrepreneurs de France qui a débuté aujourd'hui. En réalité, les patrons ne sont pas du tout sûrs de remporter leur match pour la croissance, tant l'incertitude politique pèse sur l'économie française. La perspective de la très probable chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre à l'Assemblée bouche aujourd'hui l'horizon des entreprises. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Vous avez suivi le discours d'ouverture du président du MEDEF, Patrick Martin, tout à l'heure. Un Patrick Martin très offensif pour défendre les intérêts des patrons.
Debout sur le cours central, sautant d'un pied sur l'autre et buvant régulièrement quelques gorgées d'eau tel un sportif, Patrick Martin s'est affiché aujourd'hui devant ses adhérents déterminés et ambitieux.
Car nous, entrepreneurs, nous ne sommes pas des commentateurs, nous sommes des compétiteurs. Nous n'imaginons pas la défaite. Nous ne la laisserons pas advenir.
Très vite, le patron des patrons prend dans son viseur les politiques.
Les décideurs politiques doivent dépasser leur rivalité partisane. Cela n'en prend pas le chemin. J'en suis consterné.
Les chefs d'entreprise sont exaspérés, dit-il, avec cette mise en garde ferme.
Ceux qui croient pouvoir jouer avec l'économie nous font à tous prendre un risque énorme. Dans quel état serait la France qu'ils aspirent à gouverner ?
Puis Patrick Martin monte au filet sur le conclave et les retraites.
On ne peut pas appeler à plus de production le matin et taxer encore plus les actionnaires l'après-midi, alors que des investisseurs supportent déjà, à titre personnel, après la lourde taxation de leurs entreprises, un niveau de prélèvement parmi les plus élevés au monde, n'en déplaise à monsieur Zucman.
Ça, c'était le petit revers lifté sur les charges et les impôts. Et enfin, jeu 7 et match sur l'Europe.
L'Europe doit aussi arrêter de nous serrer le garrot en durcissant sans cesse ses objectifs environnementaux.
Une heure de discours comme une heure de match devant un public conquis, des adhérents que le patron des patrons appelle à ne plus subir et à sauver l'économie française.
Annabelle Grelier, merci. François Bayrou est attendu demain. Roland Garros, le Premier ministre, tiendra devant les patrons son troisième discours de la semaine après sa conférence de presse lundi et son intervention hier devant la CFDT. Et ce soir, il sera l'invité du journal de 20h de TF1. Ce matin, au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a apporté un soutien total au choix de son Premier ministre de solliciter la confiance des députés. Édouard Philippe soutient lui aussi la démarche de François Bayrou, mais dans un entretien à l'AFP, l'ancien Premier ministre se montre assez pessimiste sur la suite. Il juge assez inéluctable une dissolution de l'Assemblée en cas de blocage persistant et d'impossibilité d'adopter un budget. Deux jours après ce vote de confiance à l'Assemblée, il y a le 10 septembre et le début de l'opération Bloquons tout. Un mouvement né sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait de leader clairement identifié. À gauche, la France insoumise apporte son soutien à cette mobilisation qui évoque celle des Gilets jaunes. Côté syndical, Solidaires appelle à la grève le 10 septembre, contrairement à la CFDT qui refuse de s'associer au mouvement. Quant à la CGT, la centrale de Sophie Binet y est plutôt favorable, mais avec des nuances. Marie Viennot, bonsoir. bonsoir.
Bonsoir.
La CGT appelle à construire la grève partout où c'est possible. Que signifie cette formule, Marie ?
Alors, c'est une façon de soutenir cet appel sans s'y associer totalement. Dans la déclaration finale du comité confédéral de la CGT, qui est son instance dirigeante et se réunissait ces deux derniers jours, on lit que la CGT souhaite que cette initiative citoyenne soit une première étape réussie de la mobilisation contre le projet de budget qui est pour la CGT, je la cite, d'une violence inédite. Après en avoir détaillé les conséquences sur les services publics, les hôpitaux, la culture, la CGT estime que la dynamique créée autour du 10 septembre démontre l'ampleur de la colère sociale. Elle appelle donc ses syndicats à débattre avec les salariés et à construire la grève partout où c'est possible, ce qui veut dire qu'elle ne déposera pas de préavis de grève nationale pour le 10 septembre, mais que localement, il peut y en avoir. Même si Sophie Binet, la secrétaire générale, s'est montrée prudente la semaine dernière vis-à-vis de ce mouvement du 10 septembre qu'elle a qualifié de nébuleux, la CGT ne peut pas empêcher ses adhérents de s'y associer. Alors ces mouvements citoyens sont toujours compliqués pour les organisations syndicales, car souvent la base pousse pour les rejoindre, mais qu'à la tête du syndicat, on préfère contrôler ses alliances, ses revendications et son agenda. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec les Gilets jaunes. De plus, lancer un appel à la grève aujourd'hui pour le 10 septembre, c'était pour la CGT tourner le dos à une mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle que souhaitent a priori tous les syndicats, y compris la CFDT. Une réunion pour trouver une date qui ne sera donc sans doute pas le 10 septembre se tiendra d'ailleurs après-demain au siège de la CFDT.
Marie Viennot, merci. C'est dans ce climat de crise politique et sociale que la ministre de l'Éducation prépare la rentrée scolaire. Vendredi pour les enseignants, lundi pour les élèves. Elisabeth Borne a tenu cet après-midi sa traditionnelle conférence de presse de rentrée avec deux annonces importantes à Kim Kasmi. La ministre veut durcir les conditions d'obtention du bac. Elle va également lancer une formation à l'intelligence artificielle pour les élèves du secondaire.
Effectivement, Stanislas, la ministre souhaite renforcer les conditions d'accès au baccalauréat. C'est pourquoi, désormais, un candidat qui aura plus de 50 points de retard lors du rattrapage ne pourra plus décrocher son diplôme.
Aujourd'hui, des élèves ayant obtenu moins de 8 sur 20 peuvent encore être rattrapés pour accéder à l'oral. Dès la session 2026, cela ne sera plus possible. Les points de jury qui permettaient aux élèves d'accéder au rattrapage ne seront plus autorisés. Par ailleurs, pour l'obtention du diplôme, les jurys ne pourront attribuer plus de 50 points à un candidat qui n'aurait pas la moyenne, contre parfois plus de 100 aujourd'hui. Aucun élève ne pourra donc être dispensé d'épreuves de rattrapage ou obtenir le bac sans avoir atteint au moins 9,5 de moyenne.
Et Elisabeth Borne qui souhaite également mieux réguler l'usage de l'intelligence artificielle avec des formations obligatoires pour les élèves de 4e, de 2e, mais aussi de première année de CAP. Avec également la mise à disposition d'un outil pédagogique pour les enseignants.
L'outil dont j'ai parlé, c'est un outil qui peut donc aider les professeurs à débroussailler la préparation de leurs cours qui restent sous leur responsabilité. C'est aussi un outil qui peut aider à mieux comprendre les difficultés d'apprentissage de chacun des élèves.
Enfin, Elisabeth Borne a aussi annoncé sa volonté de lancer une concertation sur les conditions d'accès à Parcoursup, particulièrement sur la place du contrôle continu, puisqu'elle souhaite que seule une partie des notes soit retenue dans la sélection des candidats.
Hakim Kasmi avec les moyens techniques de Romain Lucquiens. Sur l'avenir compromis du gouvernement, Elisabeth Borne a défendu l'actuel budget de l'éducation nationale, un budget qui, selon elle, a augmenté de 16 milliards d'euros depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017. Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie dans cette période d'instabilité politique ? Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, vient de passer une semaine dans l'archipel où il a rencontré l'ensemble des responsables politiques calédoniens. Les indépendantistes du FLNKS lui ont répété leur opposition à l'accord de Bougival signé le 12 juillet dernier. Accord qui prévoit notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le dialogue n'est donc pas complètement rompu entre le gouvernement et les indépendantistes les plus radicaux, mais Manuel Valls est lui aussi un ministre en sursis.
Oui, Manuel Valls s'est rendu sur place pour tenter de sauver l'accord de Bougival, désormais rejeté par une partie du camp indépendantiste, à savoir le FLNKS. Et le voyage du ministre s'est achevé hier sur une note un peu plus positive que quand il est arrivé sur place une semaine plus tôt.
Oui, absolument.
Mila Kulo Tukumuli est le président du parti L'Éveil Océanien, un parti ni indépendantiste, ni non-indépendantiste.
Le FLNKS, avant l'arrivée du ministre, était dans une phase qui consistait à dire rejet de Bougival et organisation des élections provinciales en novembre. Donc aujourd'hui, l'élection provinciale, ça a disparu. Deux, ils ont fait un communiqué hier où ils parlent de dialogue avec l'ensemble des partenaires. Donc ça veut dire qu'il y a un petit virage qui est effectué.
Rien n'est donc tout à fait réglé, mais Manuel Valls a tout de même pu lancer le processus de mise en œuvre de l'accord de Bougival, censé remplacer l'accord de Nouméa, signé en 1998. Un agenda a été élaboré et un projet de loi constitutionnelle rédigé. La difficulté, explique Mila Koulo-Toukoumouli, est que cet agenda est totalement bousculé par la décision de François Bayrou de solliciter la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain.
Le projet de loi constitutionnelle doit être examiné au Conseil des ministres le 17 septembre. Donc, a priori, il n'y a pas de Conseil des ministres le 17, si le gouvernement tombe. Donc, on peut avoir, s'il y a un gouvernement qui tombe, un petit peu de retard dans la mise en œuvre calendaire. Et par contre, si on a une dissolution de l'Assemblée nationale, alors là, je ne sais pas où est-ce que ça nous emmènerait.
En cas de dissolution, effectivement, toutes les cartes seraient rebattues et l'accord de Bougival s'en trouverait grandement fragilisé, ce qui assombrirait considérablement l'avenir de l'archipel au bord de l'effondrement économique depuis les émeutes du printemps 2024 qui ont fait 14 morts et 2 milliards d'euros de dégâts.
Explication signée Stéphane Robert. L'actualité politique ce soir, c'est aussi la candidature d'Éric Ciotti au municipal à Nice. L'ancien président des Républicains, désormais associé au Rassemblement National, l'a officialisé aujourd'hui. En mars prochain, il affrontera donc le maire sortant de Nice, Christian Estrosi. Lui aussi ex-LR, mais passé depuis dans les rangs de la Macronie, tendance Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Éric Ciotti et Christian Estrosi, c'est l'histoire de deux frères ennemis qui vont donc s'affronter dans un duel fratricide.
Ah oui, les deux hommes se connaissent très bien puisque lorsqu'il est élu député en 1988, son premier mandat électif, le jeune Christian Estrosi, âgé de 32 ans, choisi pour assistant parlementaire, un certain Éric Ciotti, âgé de 23 ans. C'était un bon collaborateur, je l'ai propulsé en politique peut-être, et j'eus tort d'ailleurs, dira le maire de Nice, près de 35 ans plus tard. Entre-temps, l'un et l'autre se sont épaulés, le plus jeune étant conseiller et directeur de cabinet de son aîné lorsqu'il est ministre sous Sarkozy ou président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti, également premier adjoint au maire de Nice en 2008, quasiment en même temps qu'il devient député et succédant à un certain Christian Estrosi à la tête du département. Mais le duel personnel qui se profile aujourd'hui revêt les oripeaux du combat des droites. En 2017, le sarkoziste Christian Estrosi est le premier à droite à soutenir le candidat Macron reste sera fidèle à ce choix. Il se présente comme un rempart au Rassemblement National. Éric Ciotti a fait le chemin inverse jusqu'à faire clairement le choix de l'alliance avec l'extrême droite et le contexte est plutôt porteur pour lui aux dernières législatives. Son parti, l'UDR, a d'ailleurs conquis les trois circonscriptions niçoises. En 2020, à la municipale niçoise, Éric Ciotti avait dû se retirer face à Christian Estrosi qui avait devancé l'extrême droite dans une triangulaire. Cet après-midi, le patron du RN, Jordan Bardella, a félicité Éric Ciotti de sa candidature.
Merci Nicolas Ballu. À noter que le gouvernement a fixé ce matin les dates des prochaines élections municipales. Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Et puis sachez que la rédaction de France Culture vous proposera à partir de demain un nouveau rendez-vous consacré à ces municipales. Maire, pourquoi faire ? Ce sera tous les jeudis dans le journal de 18h jusqu'au scrutin. Les chars israéliens se rapprochent de la ville de Gaza, leur nouvel objectif militaire dans l'enclave palestinienne assiégée. Ils ont commencé à bombarder des cibles dans les quartiers situés à la limite nord de l'agglomération. Pour Israël, Gaza City est le dernier bastion du Hamas qu'il faut donc réduire pour en finir avec la milice islamiste. L'État hébreu a d'ailleurs l'intention d'évacuer son million d'habitants. On retrouve à Jérusalem Thibault Lefèvre, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Thibault, quelle est la situation ce soir à Gaza ?
Oui, et c'est le désormais tristement célèbre porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrey, qui a pris la parole à la mi-journée, qualifiant d'inévitables les déplacements de force de la population de la ville de Gaza avant le début de la probable offensive israélienne. 800 000, 1 million d'habitants sont concernés, c'est évidemment la panique à Gaza. Et comme pour joindre le geste à la parole et contraindre ces Palestiniens de partir, les frappes ont ont été plus nombreuses aujourd'hui. Information confirmée cet après-midi par notre journaliste sur place, Rami Al-Maghari.
C'est vrai, ces bombardements sont dans la continuité de l'intensification des opérations de l'armée israélienne, notamment dans la partie nord de la ville de Gaza.
L'armée israélienne promet des tentes, elle promet de l'espace pour s'installer et de la nourriture à tous les déplacés contraints de partir. 18 Palestiniens sont morts hier selon les autorités locales en essayant justement d'atteindre les centres de distribution d'aide humanitaire.
Thibault, alors qu'Israël poursuit son offensive militaire, Donald Trump réunit ce soir à la Maison Blanche une importante réunion consacrée à Gaza.
Oui. Sur l'après-Hamas, difficile d'y voir clair pour le moment. Mais il semble que Benjamin Netanyahou ait convaincu Donald Trump de la nécessité d'attaquer la ville de Gaza. Et ce, malgré les avertissements d'à peu près tous ses alliés. La dernière déclaration en date, c'est celle de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui a affirmé tout à l'heure que l'offensive israélienne allait au-delà du principe de proportionnalité. Plus grave, les mises en garde régulières du chef d'état-major pourtant en charge de la conduite de la guerre. L'attaque de la ville de Gaza pourrait durer un an, selon Eyal Zamir. L'armée devrait perdre beaucoup d'hommes dans des combats au corps à corps. Et les 20 derniers otages présumés vivants pourraient ne jamais retrouver la liberté. Pas de conséquences pour le moment puisque Benjamin Netanyahou compte bien faire valider son plan de bataille par ses ministres. La prochaine réunion du cabinet de sécurité est prévue pour dimanche.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Culture à Jérusalem. Emmanuel Macron effectue en ce moment une brève visite en Moldavie avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre polonais Donald Tusk. Les trois hommes sont venus réaffirmer le soutien de l'Europe à cette ancienne république soviétique qui fête le 34e anniversaire de son indépendance. La Moldavie, coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, subit les ingérences russes car Moscou aimerait bien ramener le pays dans sa sphère d'influence. Dans un mois, les Moldaves votent pour des législatives cruciales pour la présidente pro-européenne Maia Sandu. Le reportage à Chisinau, la capitale de notre envoyé spécial Valérie Crova.
La place de la cathédrale orthodoxe de Chisinau accueille un marché de produits locaux en cette journée fériée en Moldavie. Alexandra, 21 ans, étudiante en Beaux-Arts, considère la visite des trois dirigeants européens comme essentielle.
C'est très important pour nous puisque nous sommes sur le chemin de l'Europe. D'autant plus que c'est le jour de l'indépendance de la République de Moldavie. C'est un grand pas pour nous. J'espère que nos enfants, nos futurs enfants n'auront pas à quitter le pays pour avoir une vie meilleure et qu'ils auront beaucoup plus de possibilités d'emploi.
Le quart des 3 millions de Moldaves vit actuellement à l'étranger pour des raisons économiques. Les négociations d'adhésion à l'Union européenne ont été officiellement lancées l'an dernier, ce dont Grigor, 28 ans, se réjouit.
L'Union européenne est un espace de liberté, c'est l'espace de la démocratie. La Russie, elle, veut nous prendre par la force, comme l'Union soviétique l'a fait en 1940. Dans ce contexte géopolitique, l'Union européenne est la seule option pour que la Moldavie puisse conserver son indépendance.
Une indépendance menacée par Moscou et ses hommes de main qui inondent les réseaux sociaux moldaves de messages de propagande pour influencer l'opinion publique et faire perdre le parti de la présidente moldave, Maia Sandu, lors des prochaines législatives qui se tiendront dans un mois.
Valérie Crova, envoyée spéciale en Moldavie. Au Brésil, la justice durcit le ton contre Jair Bolsonaro. Un juge brésilien a ordonné hier soir une surveillance permanente de l'ancien président, actuellement assigné à résidence et sous bracelet électronique. Jair Bolsonaro est accusé de tentative de coup d'État. Son procès doit s'achever le 12 septembre prochain. La justice le soupçonne de vouloir prendre la fuite à l'étranger. Jean-Mathieu Albertini nous appelle de Rio.
Jair Bolsonaro pourrait-il s'enfuir avant son procès? L'ex-président est déjà en détention à domicile depuis début août après avoir enfreint les mesures lui interdisant de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais dans le doute, des agents de police le surveillent désormais 24 heures sur 24. Il faut dire que le risque de fuite est jugé sérieux après la découverte dans son téléphone d'une demande d'asile auprès du gouvernement argentin. La possibilité de voir Jair Bolsonaro se réfugier dans la toute proche ambassade américaine est également évoquée. Mais ce n'est pas tout. La campagne de lobbying menée par l'un de ses fils depuis les États-Unis pour que le gouvernement de Donald Trump intercède en faveur de son père a aussi pesé dans cette décision. Tout cela est détaillé dans un récent rapport de la police fédérale qui demande l'inculpation du père comme du fils dans le cadre d'une autre enquête, cette fois pour entrave à la justice. Ces nouveaux ennuis judiciaires n'auront pas d'incidence sur le procès de la semaine prochaine, mais compliquent encore davantage la situation de l'ex-président.
Cette Cette dernière information en provenance des États-Unis, une fusillade meurtrière tout à l'heure à Minneapolis. Il y aurait au moins 2 morts et 12 de blessés. Des enfants figurent parmi les victimes. Nous y reviendrons dans le prochain journal à 19h. Le temps demain sera franchement orageux sur une bonne partie du pays. Dès ce soir, 28 départements des Pyrénées au nord-est sont en vigilance orange pour ces orages. Un temps perturbé qui devrait gagner la région PACA, notamment les Bouches-du-Rhône. Sur les autres régions, un ciel variable. Demain matin, il fera entre 11 et 21 degrés du nord au sud. L'après-midi, les maximales sont en baisse entre 19 et 30 degrés en général. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Nicolas Leroulet.